aux gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Je garde cet accord à la fin. Alors, faites-moi plaisir. Comme ça, vous serez tout à fait avec moi. Je m'en vais. Je vous souhaite bonne nuit. N'applaudissez pas à cette chanson. Hein? Merci d'avance.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Et aujourd'hui, après l'annonce qu'on va entendre tout de suite, un programme chargé avec le petit chaperon rouge des maternelles de Lormochat et des sixièmes du groupe Lecture Molière, puis Zombie School du centre de loisirs de Rosaline Franklin, en annonce du film qui sera projeté la semaine prochaine lors des portes ouvertes, un reportage réalisé par les enfants avec l'encadrement d'Irène Berelovitch. Ensuite, on entendra les derniers poèmes qui ont été faits par les CE1C et les CPB de l'école Joliot-Curie A. Ça n'existe pas. Ensuite, quatre fables de La Fontaine, du groupe lecture de l'école Dulcie September, et deux reportages pour terminer, l'interview de Juliette, assistante d'édition aux éditions Thierry Magnier, qui nous présentera la lettre de Sacha qui a gagné le prix qu'il a lu cette année. Interview réalisée par les CM2 de l'école Einstein, et un reportage réalisé par les écomotivés du Collège Molière pour rencontrer la stagiaire de la pagaille qui avait parlé de sa formation et de son métier. Bonne écoute.
Radio Cartable. Radio des écoles d'Ivry. Bonjour, vous êtes sur Radio Cartable, la radio des enfants de l'école d'Ivry.
Nous sommes les CP2 de l'école Maurice Thorez B. On a une bonne nouvelle à vous annoncer.
La grande fête du bruit est de retour. Cet événement annuel se déroule le samedi 20 et dimanche 21 juin au centre-ville d'Ivry-sur-Seine.
Ce sera gratuit et ouvert à tous.
Il y aura plein de concerts au hangar et sur la grande scène.
Devant la mairie, vous pourrez visiter le village municipal.
Il propose de nombreux stands municipaux et associatifs et même des dégustations.
Vous pourrez aussi découvrir des artistes et leurs œuvres.
Pour les plus sportifs, un village culture et sport est installé au square Jules Coutan.
Vous profiterez d'animations pour petits et grands
et de plein de surprises dans toute la ville.
Radio Cartable enregistrera les enfants et leurs parents dans toutes les langues. Le stand sera au Square Torres.
Alors, mets ta casquette et ta crème solaire et rejoins-nous.
Célébrer la diversité et la convivialité d'une ville engagée.
Au revoir
tout le monde. Au revoir tout le monde.
Radio Mochila, rádio das crianças das escolas de Friis-sur-Seine.
Rádio Pleta, la rádio, dieci escolas de Friis-sur-Seine.
Le journal de la création.
Le petit sapin rouge.
Il était une fois une charmante fillette qui vivait dans une maison tout près de la forêt. Sa grand-mère lui avait offert un chaperon de couleur rouge qu'elle portait constamment, si bien que tout le monde l'appelait
le petit chaperon rouge.
Un jour,
la maman lui donne sa petite galette et un petit bout de beurre
à sa grand-mère malade qui vivait de l'autre côté de la forêt.
Maman,
fais attention.
You.
Reste bien sur le chemin et ne t'aventure surtout pas dans les bois.
Le petit chaperon rouge se mit en route. Alors qu'elle marchait, elle ne put s'empêcher de s'écarter du chemin pour ramasser des champignons dans la forêt.
C'est alors qu'un loup affamé surgit des bois.
Bonjour demoiselle, où vas-tu ainsi?
Comme toujours, se montrait très poli, le petit chaperon rouge lui répondit.
Je vais chez ma grand-mère malade, qui habite la première maison de l'autre côté de la forêt. Je lui apporte une galette et un petit pot de beurre.
Loulou
se dit que s'il se dépêche, il arrivera à la maison avant la fille et il pourra alors dévorer la vieille dame et la petite. De sa voix grave, il dit au petit chaperon rouge.
Si on jouait, le premier arrivé chez ta grand-mère gagnera. Je m'en vais par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là.
Le petit chaperon rouge accepta et
Loulou
se mit à courir aussi vite qu'il le put en direction de la maison de
ma grand-mère.
Pendant ce temps, la petite fille continua sa route en s'arrêtant régulièrement pour cueillir des fleurs et courir après les papillons.
Loulou,
qui s'est pressé, arriva rapidement à la maison de
la grand-mère.
Il frappa à la porte.
Qui est là?
Demande la vieille dame.
C'est ta petite fille, le petit chaperon rouge,
répondit le
loup
en prenant une voix douce.
Tire la chevillette
et la poubinette,
Chira.
Loulou,
Chira.
La chevillette.
Et la porte s'ouvrit. Il avait tellement faim qu'il se jeta sur
la grand-mère
et l'avala tout.
Oui, alors c'est Gaëlle au micro et je suis désolée par cet étrange phénomène qui fait que les voix des enfants sont, depuis le début de l'émission, extrêmement ralenties. Donc je vais tenter un autre mode de lecture de l'émission et j'espère que cette fois-ci ce sera entendable.
Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cartable, la radio des enfants de l'école d'Ivry.
Nous sommes les CP2 de l'école Maurice Torres B. On a une bonne nouvelle à vous annoncer.
La grande fête d'Ivry est de retour.
Cet événement à l'US se déroule le samedi 20 et dimanche 21 juin au centre-ville d'Ivry-sur-Seine.
Ce sera gratuit et ouvert à tous.
Il y aura plein de concerts au hangar et sur la grande scène.
Devant la mairie, vous pourrez visiter le village municipal.
Il propose de nombreux stands municipaux et associatifs et même des dégustations.
Vous pourrez aussi découvrir des artistes et leurs œuvres.
Pour les plus sportifs, un village culture et sport est installé au square Jules Coutan.
Vous profiterez d'animations pour petits et grands et de plein de surprises dans toute la ville.
Radio Cartable enregistrera les enfants et leurs parents dans toutes les langues. Le stand sera au Square Torres.
Alors, mets ta casquette et ta crème solaire et rejoins-nous.
Célébrer la diversité et la convivialité d'une ville engagée.
Au revoir tout le monde.
Rádio Mochila, a rádio das crianças das escolas de Friçursen.
Rádio Pleta, la rádio, dzieci ze szkoły de Friçursen.
Le petit sapin rouge.
Il était une fois une charmante fillette qui vivait dans une maison tout près de la forêt. Sa grand-mère lui avait offert un chaperon de couleur rouge qu'elle portait constamment, si bien que tout le monde l'appelait
le petit sapin rouge.
Un jour,
la maman, elle donne sa petite galette et un petit bout de beurre
à sa grand-mère malade qui vivait de l'autre côté de la forêt.
Maman,
fais attention au loup. Reste bien sur le chemin et ne t'aventure surtout pas dans les bois.
Le petit chaperon rouge se mit en route. Alors qu'elle marchait, elle ne put s'empêcher de s'écarter du chemin pour ramasser des champignons dans la forêt.
C'est alors qu'un loup affamé surgit des bois.
Bonjour demoiselle, où vas-tu ainsi?
Comme il se montrait très poli, le petit chaperon rouge lui répondit.
Je vais chez ma grand-mère malade, qui habite la première maison de l'autre côté de la forêt. Je lui apporte une galette et un petit pot de beurre.
Loulou
se dit que s'il se dépêche, il arrivera à la maison avant la fille et il pourra alors dévorer la vieille dame et la petite. De sa voix grave, il dit au petit chaperon rouge.
Si on jouait, le premier arrivé chez ta grand-mère gagnera. Je m'en vais par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là.
Le petit chaperon rouge accepta et
Loulou
se mit à courir aussi vite qu'il le put en direction de la maison de
ma grand-mère.
Pendant de ce temps, la petite fille continua sa route en s'arrêtant régulièrement pour cueillir des fleurs et courir après les papillons.
Loulou,
qui s'est pressé, arriva rapidement à la maison de
la grand-mère.
Il frappa à la porte.
Qui est là?
Demande la vieille dame.
C'est ta petite fille, le petit chaperon rouge.
Répondit
Loulou
en prenant une voix douce.
Tire la chevillette.
Et la poubinette.
Tira.
Loulou.
Tira
la chevillette.
Et la porte s'ouvrit. Il avait tellement faim qu'il se jeta sur la
La grand-mère.
Et l'avala tout rond. Satisfait, il ferma la porte et se coucha dans le lit en attendant l'arrivée du petit chaperon rouge. Bien plus tard, la petite fille frappa à la porte.
Qui est là?
Demanda le loup en imitant la voix de
la grand-mère.
C'est ta petite fille, le petit chaperon rouge. Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre.
Tire la chevillette et la bobinette tira.
Dit Loulou de sa plus douce voix.
Viens, entre. Rapproche-toi de moi.
La fillette entra et se dirigea vers le lit. Elle eut du mal à reconnaître sa grand-mère.
Grand-mère, que tu as de grands
bras.
C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant.
Grand-mère,
que tu as de grandes
oreilles.
C'est pour mieux t'entendre, mon enfant.
Grand-mère, comme tu as de grands yeux.
C'est pour mieux te voir, mon enfant.
Grand-mère, que tu as de grandes
dents.
C'est pour mieux te manger.
En disant ces mots, le grand méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et l'engloutit tout entier.
C'est bon.
Rassasié, le loup s'endormit et se mit à ronfler très fort. Heureusement, un
chasseur
passa à côté de la maison et entendit les effroyables ronflements. Il entra dans la maison, prêt à tirer, mais en voyant le loup, il comprit ce qui s'était passé.
Le chasseur prit alors des
ciseaux
et ouvrit le ventre du loup avec précaution. Le petit chaperon rouge et la
grand-mère
en sortirent sains et saufs. Le petit chaperon rouge alla chercher des grosses pierres et les plaça dans le ventre du loup.
La grand-mère
le referma avec du fil et une aiguille. Lorsque
le loup
se réveilla, il se sentit très lourd. En voyant le chasseur, il se sauva sur le chemin et tomba dans un ravin.
Oh, loulou, il crie.
Pour remercier le chasseur, le petit chaperon rouge et
la grand-mère
l'invitèrent à manger la galette.
Tu dis merci.
Depuis ce jour, la petite fille reste bien sur le chemin quand elle va voir sa grand-mère.
La fin de l'histoire.
Le journal de la création.
Sa maman était tombée malade. À sa maman, il a donné un petit bout de beurre. Mmh. Après, elle est repartie de sa maison. La grand-mère, après, elle est partie à sa maison. Après, les copines retournées. Après la grand-mère,
non,
après la grand-mère, elle a mangé le loup. Après, elle n'est pas restée dans sa maison. Après, elle revient.
Un cartable. Reportage dans mon cartable.
Un virus à Rosaline Franklin.
Un reportage des enfants du centre de loisirs
de l'école Rosaline Franklin.
Avec les voix de
Abdelrahman,
Camille,
Célestini,
Clément,
Elliot,
Essia,
Layana,
Maïssa,
Naïm,
Nathan,
Céliane,
Thomas,
Zaineb.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour, je m'appelle Abdelrahman et de quoi ça parle votre film ?
Notre film parle de zombies et d'antidotes, de classe, d'héros, de magie, de potions.
Et comment vous appelez et aussi dans quelle école est-ce que vous avez tourné le film ?
Moi, je m'appelle Clément, on a tourné ce film dans l'école Rosaline Franklin. Avec les animateurs et les élèves.
Comment elle est venue votre idée de zombie ?
On voulait de l'action, donc on a proposé des zombies et des héros, des armes.
Il y a des héros, des héros. Bonjour Camille, et comment s'est passé le déroulement du film ? Enfin, l'écriture. Comment vous avez écrit votre texte ?
Bah, d'abord, on a commencé à imaginer, après on a écrit et après on a essayé et bah c'était bien, alors on a gardé et on a changé des choses parfois. Bah chacun proposait son idée et bah si c'était bien on gardait, bah si c'était pas très bien bah on gardait pas.
Qu'est-ce que ça représente, les zombies, pour toi?
Comme des monstres ou des humains corrompus. Normalement, on devait tourner dans l'école.
Je vais vous lire ce qu'on a écrit pour le film School Zombie. Un virus a été mis sur une personne dans l'école. Il y a des gens qui sont expulsés de l'école et ils vont essayer de fabriquer un remède contre le virus. Cependant, quand ils rentrent, ils découvrent que l'école a été zombifiée avec des armes.
Comment le film va-t-il se terminer ?
Déjà, bonjour. Moi, je pense que les films vont se terminer en beauté. Genre, comment dire ? On va tous être ressuscités. Et être des amis, quoi.
Et qui va regarder ce film ?
Alors, le film va se dérouler aux portes ouvertes. Donc, il y aura nos parents, notre famille. Et aussi, moi, je pense qu'on va le voir avant tout le monde pour voir si c'est bien ou que si on peut le diffuser, quoi, ou, à nos parents, à notre famille. Voilà.
Comment vous allez vous sentir ?
Moi, je vais me sentir un peu la star, quoi. Celle qui a fait un film, comme si c'était moi qui l'avais fait, mais non. Et j'aurais un peu honte si je serais. Je sais pas. Parce que c'était une fois en CE2, je me suis vue sur un grand écran. Et aussi en classe, on a fait un podcast sur Radio Cartable et ça m'a fait un peu rigoler. Alors, bonjour. En ce moment, nous sommes à Rosaline Franklin. Je m'appelle Zeyneb. Je suis en CM2.
Tu peux dire tu.
Et tu t'appelles comment ?
Céliane.
Première question. Est-ce que tu aimes bien ton rôle ?
Très très bien. C'est être un zombie.
Un peu voix cassée, mais c'est pas grave. Continuons. Est-ce que tu aurais aimé avoir un autre rôle ?
Oui, être un héros.
Ah, et ça consiste à quoi, être un héros dans ton film, dans le film ?
C'est de sauver des personnes, et puis voilà. Essia qui nous a dit, qui nous a départagé sur les rôles. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, et j'ai dit que tous les rôles. Après, j'ai dit, par exemple, qui veut faire marchand ? Et ils ont levé la main. J'ai dit, qui veut faire héros, ils ont levé la main. Qui veut faire ça, ils ont levé la main. Voilà. Pas compliqué.
Est-ce que, dans l'histoire, tu étais le personnage principal ou le personnage un peu oublié ?
J'étais pas vraiment le personnage principal.
Est-ce qu'il y avait des choses difficiles à jouer dans ce rôle de zombie, pas principal ?
Je sais pas vraiment, non. Il n'y a pas.
Tu t'es amusée ?
Oui, beaucoup. Ça m'a plu beaucoup. On s'est bien amusé.
Merci, au revoir.
Moi, je m'appelle Elliot et je vais poser des questions à Thomas et à d'autres acteurs du film. Est-ce que c'était amusant de tourner le film ?
Moi, je faisais le rôle d'un des héros. Quelqu'un qui n'est pas mort, entre guillemets, et qui a donné l'antidote à des gens. Il y avait d'autres personnes, comme Naïm ou Essia. C'était pas si difficile que ça, parce que j'avais déjà fait un autre film. On va terminer le film, peut-être le renouveler un peu, parce que les zombies, ils ressemblaient à des gens normaux. On pouvait pas se défendre, donc peut-être qu'on va le refaire et avoir de meilleure qualité. Et aussi, on va mettre du maquillage pour les zombies pour les zombies. Rouge pour les blessures, blanc pour un peu la couleur parce qu'ils sont pâles, et un peu vert pour les infections et tout. C'est l'animatrice qui a lancé le projet, qui s'appelle Karine. et bah, qui va coller ensemble les scènes qui ont été bien, qui va mettre les bruitages un peu bien, les chansons, les musiques, les effets spéciaux. Elle va peut-être enlever quelques scènes parce que ça sera peut-être pas assez bien. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Céline, je suis en CE1 et je vais poser des questions à Zaineb. Zaineb, t'as aimé quoi dans le film ?
Alors en général, je n'étais pas dans tous les films. J'étais peut-être vers le milieu, on peut dire. Et moi, ce que j'ai aimé, c'était quand j'étais dans le film. En vrai, c'est ce que j'ai aimé.
T'avais fait d'autres films avant ?
Oui, avec un ancien maître à moi, on faisait des films. J'en connais un peu, les sons et les films, mais pas trop non plus.
Et il y avait un rôle principal que tu avais joué ?
Non, moi j'avais pas un rôle principal, mais j'avais plutôt un rôle où j'étais un peu la fille, un peu plus timide que prévu.
T'étais un PNJ dans la vraie vie en fait ?
J'étais pas en FNJ, mais j'étais celle qui parlait pas. Genre, moi, je découvrais, quoi.
T'es timide dans la vraie vie ou c'était un rôle de composition?
Ça dépend avec qui je suis. À l'école, je suis timide, mais avec certaines animateurs, non. Et certains animateurs, oui. Et là, je suis en train de lancer. On est en train de faire un film. Et avec ma maîtresse aussi, Manuel, maîtresse.
Merci et au revoir.
Bonjour, je m'appelle Essia, je suis l'élève de Rosalie Franklin. Aujourd'hui, je vais interviewer Naïm. Naïm, dans le film, quel est ton personnage préféré ?
Les héros.
Ok, et toi, tu jouais quel personnage dans le film ?
Le héros. Alors, il y a Thomas... Essia et moi. Après, tous les autres, ils se sont échangés en zombies. En fait, ils se sont pas fait contaminer.
Mais ils sont comment, ces personnages ? Et ils ont quel caractère ?
Je sais pas comment trop l'expliquer. Gentil.
Quel a été ton meilleur moment dans le film ?
Quand tout le monde était dans la salle art plastique pour sauver les zombies.
Naïm, est-ce que le film t'a plu ?
Oui, beaucoup. Pourquoi ? Parce que on courait beaucoup. C'était un petit peu la baston, quoi.
Quand on était dans le couloir et qu'ils devaient nous contaminer, les zombies, on courait beaucoup. C'était un jeu d'action, quoi.
Céline était tombée, après là, on avait continué à tracer et tout ça. J'aimais beaucoup y jouer.
Pourquoi je fais ça? Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Et pour le film Zombie School, il sera donc projeté lors des portes ouvertes jeudi 18 juin à l'école Rosaline Franklin.
Il se tape sur la tête, boum. Il se retape sur la tête, boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses. Pas besoin de comprendre.
Nous sommes les élèves de CPB
et le CNC
de l'école Joliot-Curie.
Nous allons vous réciter des poèmes que nous avons écrits sur le thème des oiseaux.
La perruche, une perruche de 100 cm qui monte sur le dos d'un canard.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une perruche qui lance un ballon sur la tête d'un rouge-gorge.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une perruche avec un pic et pêche qui galope sur un cheval.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Damien?
Ahmad.
Un colibri.
Un colibri qui vole avec une météorite en dansant comme des fous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un colibri qui boit du nectar en faisant du yoga. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un colibri qui dort dans un cartable avec son ami le merle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et pourquoi pas?
Aya.
Oud.
Un rouge-gorge qui fait de la trottinette dans la cour de l'école.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un rouge-gorge qui fait du piano en chantant sur les notes de Mozart.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un rouge-gorge qui se baigne dans le jacuzzi du jardin.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Fatoumata, Kaïs.
Une chouette. Une chouette qui porte des lunettes et qui ne voit pas la nuit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Une chouette qui dort la nuit et qui ne sait pas voler.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Une chouette qui fait du ping-pong.
Le journal de la crise. Reportage.
Pas. Ça n'existe pas.
Et pourquoi pas?
Reportage. Allez,
Clara.
Le moineau. Un moineau qui se balade à Paris en faisant des photos avec sa mamie.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un moineau qui écrit une poésie en montant en haut de la tour Eiffel.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un moineau qui mange de la soupe aux potimarrons et aux carottes avec son ami le chat.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et pourquoi pas Jessie et Léonie?
Le cheval. Un cheval qui voyage en fusée dans l'espace avec une vache.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un cheval qui fait de la boxe avec une souris et un rat. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Non!
un cheval qui nage dans une piscine avec une bouée et un maillot de bain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et pourquoi pas?
Ah ouais? Harris,
Valentina,
Abdallah.
Le cochon.
Un cochon qui grimpe dans un arbre avec une oie et une poule. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un cochon qui conduit une voiture en mangeant un hot dog. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un cochon qui porte une jupe, des boucles d'oreilles et une perruque. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et pourquoi pas?
La classe du CPB.
Clara, Yasmine, Harris.
Le perroquet.
Un perroquet qui veut être astronaute et qui voyage dans l'espace.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un perroquet qui voit un alien rose et un extraterrestre vert et bleu.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un perroquet qui se pose sur la lune tout en dégustant un couscous.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et pourquoi pas?
La classe du CPB.
Kylian,
Jessie,
Lucie,
Nahed.
Rouge-gorge qui va à l'école avec son cartable et un rouleur.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un rouge-gorge qui apprend à lire, à écrire, à compter et à calculer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Un rouge-gorge qui joue à chat avec la classe du CBB. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas?
La classe du CPB. Fatoumata.
Naï.
La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je pas encore? Nenni !» M'y voici donc.
Point du tout.
M'y voilà.
Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Jean de La Fontaine.
La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la biche fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle.
« Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'autre fois d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. »
« Que faisiez-vous autant chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Jean de La Fontaine. «
et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point si tôt que moi ce but. C'est tôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'ébord. Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lèvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour frotter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec l'auteur. Lui cependant méprise une telle victoire. Tiens la gageure un peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard.
Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter? Et que serait si vous portiez une maison ?» La fontaine.
Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait tant son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur allégée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. »
À ces mots, le corbeau ne se sent pas déjoué. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine.
Thank you.
Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
École Libris,
les livres
qu'il faut
lire.
Bonjour, je suis Jenna, envoyée avec mes camarades de classe de CM2B de l'école Albert Einstein par Radio Cartable. Nous félicitons votre autrice pour le prix qu'il a eu qu'elle vient de remporter pour son œuvre, La lettre de Sacha. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel rôle avez-vous eu pour la publication de ce livre ?
Alors moi je suis Juliette, je suis assistante d'édition chez Thierry Magnier et mon rôle pour la lettre de Sacha, j'ai travaillé avec Charline Van Der Port qui est l'éditrice du projet. Une fois que Charline a travaillé avec Nathalie le texte, qu'elles ont terminé le travail ensemble, moi j'ai fait tout le suivi après derrière avec les graphistes, les correcteurs, le service de fabrication pour faire en sorte que le projet devienne objet livre.
Bonjour, je suis Arun. Qu'est-ce qui a inspiré votre autrice pour écrire ce livre ?
Nathalie Bernard, pour cette histoire, en fait, a rencontré cet élève dont elle représente la voix. Elle l'a rencontré au CDI, dans une rencontre comme ça, au collège.
Bonjour, je suis Younous. Est-ce que l'histoire la touche personnellement ?
Oui, c'est une histoire qui l'a touchée personnellement parce qu'elle a rencontré cet élève qui, au début, ne voulait pas trop raconter son histoire et finalement qui, au fur et à mesure de leur rencontre, s'est dévoilée et elle a porté sa voix en écrivant cette lettre à la première personne, en essayant de le faire parler.
Bonjour, je suis Mathéo. Pourquoi a-t-elle choisi ce titre ?
Un titre, c'est vraiment pour représenter ce dont parle le roman. Et là, c'était le plus simple, c'était de dire la lettre de Sacha, vraiment pour représenter ce qu'allait raconter l'histoire.
Pensez-vous que ce livre obtiendrait autant de succès ?
C'est une collection où on fait venir... Il y a beaucoup d'auteurs qui viennent avec leur voix, leurs différents textes. Et c'est vrai que c'est une collection qui remporte beaucoup de prix. Après, on ne sait jamais, quand on publie une histoire, quelle réception elle va avoir. Mais là, on est agréablement surpris de voir qu'il y a autant de sélections pour ce titre-là. Et d'être récompensé par ce prix qu'il a lu, c'est une super chouette récompense pour l'autrice.
Bonjour, je suis Mariam. Est-ce que ce livre est traduit dans d'autres langues ?
Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on a une personne aux éditions Thierry Magnier qui représente nos livres devant les agents et devant les éditeurs étrangers. Donc, il est possible qu'un jour, un éditeur étranger s'intéresse à cette histoire et la traduise pour le publier dans son pays.
Bonjour, je suis Bajougou. Combien de livres a-t-elle déjà écrit ?
Nathalie a déjà publié énormément. D'abord, elle a commencé à écrire des livres pour adultes, plutôt des histoires de vampires. Et elle est venue à la jeunesse où elle a écrit des thrillers. Donc chez Thierry Magnier, elle a publié plutôt des romans pour ados. Je dirais qu'elle en est déjà à son 8e. Et elle avait déjà écrit un livre dans la collection Petite Poche qui s'appelle Les Coquelicots de Claude Monet.
Bonjour, je suis Imran. Quel était son premier ? En quelle année ?
De mémoire, son premier chez Thierry Magnier, c'est Keep Up, qui a été publié, je crois, en 2017. Mais il faudrait que je vérifie.
Bonjour, je suis Elliot. Est-ce son premier prix ?
Nathalie avait déjà remporté d'autres prix, notamment le prix Une Pépite au Salon du Livre de Montreuil. Et quand elle a su qu'elle avait reçu ce prix qu'il a lu, elle a été très émue. Et c'est toujours hyper émouvant de voir que ce qu'on écrit personnellement va intéresser ses lecteurs et notamment le jeune public à qui elle s'adresse.
Bonjour, je suis Aymen. Depuis combien de temps est-elle écrivaine ?
Ça fait depuis plus de 20 ans que Nathalie écrit.
Bonjour, je suis Aya. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce métier ?
quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire. Et je me suis rendu compte que j'aimais aussi aider les personnes, les auteurs, les illustrateurs à mettre en forme leur idée pour après faire en sorte que leur projet devienne un objet livre. Et donc c'est hyper chouette dans mon métier de pouvoir accompagner des auteurs et de faire en sorte que bah, leur idée, leur texte devienne un objet imprimé qui soit après diffusable à tout plein de personnes et qui soit partagé et lu.
Bonjour, je suis Ryan. À l'école, l'écriture était déjà votre passion ?
Non, c'était pas. J'étais très mauvaise en français. C'était pas une matière qui m'intéressait plus que ça. Mais j'aimais beaucoup lire. Et c'est plus la passion des mots qui m'intéresse. Je suis plus une grande lectrice que écrivaine. Moi, je suis pas du tout écrivaine. J'arrive pas à faire comme nos auteurs à écrire. J'ai besoin de la matière et de leurs textes. Et j'arrive après à leur dire, bah là, il y a tel ou tel personnage, tu pourrais développer ou tu pourrais couper ces passages. J'arrive à leur donner des conseils pour écrire et leur donner des petites pistes de retravail, mais je suis incapable, moi, d'écrire comme ils peuvent le faire.
Bonjour, je suis Aydin. Quel est votre parcours scolaire ?
J'ai eu le bac, après j'ai fait une fac d'histoire et ensuite j'ai fait un master de 2 ans spécialisé dans l'édition pour travailler dans les métiers du livre. Et c'est comme ça que j'ai fait des stages et que je suis arrivée à travailler chez Thierry Magnia.
Bonjour, je suis Najim. À quoi ressemblent vos journées ?
Alors dans mon métier, je passe toute la journée sur un ordinateur, étonnamment. Je réponds à beaucoup de mails. Et je fais vraiment le lien entre les auteurs, retravailler leur texte, mais une fois que le texte est prêt, je vais aussi beaucoup travailler avec les graphistes, les correcteurs, le service de fabrication qui permet de faire le lien avec les imprimeurs. Je vais parler avec tout plein de personnes pour faire en sorte que le projet de l'auteur devienne un objet livre. Donc ça va être mon travail va aussi consister à le relire plusieurs fois le texte pour le retravailler avec l'auteur, mais après ça va être aussi partir à la chasse aux coquilles une fois qu'il est maquetté. Et une coquille, c'est notre jargon, c'est notre vocabulaire d'éditeur, c'est faire la chasse à toutes les fautes d'orthographe, à toutes les petites fautes de syntaxe. C'est faire en sorte qu'il ne reste plus aucune faute pour que vous lisiez un livre tout propre. Et après, il y a aussi tout le travail, le travail avec la graphiste pour faire une couverture.
L'illustration de la couverture, est-ce qu'elle a un sens ?
Bien sûr, la couverture a un sens. Le livre a été publié dans la collection Petite Poche. Et chaque couverture est pensée par Florie Briand, qui est notre graphiste et aussi illustratrice. Et elle utilise comme ça un fond de couleur dégradé et avec des petits points blancs qui viennent comme ça composer une image. Et au premier regard, quand on découvre le livre comme ça une première fois, on peut se poser des questions, on peut ne pas savoir ce que représente l'illustration de couverture. Mais une fois qu'on a lu, normalement, on doit trouver le sens ou peut-être en trouver d'autres. L'éditrice et la graphiste travaillent ensemble pour proposer une couverture qui va être soumise à l'autrice et suivant ses retours on va faire des petites modifications. Ça peut être changer les couleurs, ça peut être trouver un autre motif parce que c'est peut-être pas assez parlant. Par exemple là la feuille, vous saviez pas ce que ça représentait, peut-être il faut trouver d'autres motifs.
Bonjour, je suis Anna. Est-ce qu'une écrivaine gagne bien sa vie ou est-ce qu'une éditrice gagne bien sa vie?
C'est toujours une question qu'on nous pose. Ça dépend vraiment. Tous nos auteurs ont un autre travail à côté parce que l'écriture ne rémunère pas assez pour qu'ils puissent en vivre pleinement. Pour moi, je suis pas à plaindre, mais je suis pas très bien payée, non.
Bonjour, je suis Joshua. Avez-vous déjà exercé d'autres métiers liés au métier d'écrivaine ou d'éditrice ?
Métier dans l'édition, c'est le premier métier que j'ai fait, que j'ai exercé. C'est mon premier. Et après, quand j'étais jeune, pendant mes études, oui, j'ai eu d'autres métiers. J'ai été animatrice pour les enfants. J'ai aussi travaillé dans une crêperie pour faire serveuse. Des petits boulots comme ça qui me permettaient de payer mes études pour devenir après éditrice.
Bonjour, je suis Mamadou. Que diriez-vous aux jeunes générations qui ont envie de devenir écrivain ?
Oui,
éditrice.
Je ne peux que encourager les personnes qui ont envie d'écrire, d'imaginer, de faire partager leurs idées. Et Pareil pour le métier d'éditeur, je trouve que dans un pays où de plus en plus la liberté d'expression est un peu remise en question, je trouve qu'il est important d'avoir des personnes qui continuent à diffuser des idées, à émerveiller et à faire réfléchir. Et...
Merci.
École Libris.
École Libris,
les livres
qu'il faut lire.
Page dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, je m'appelle Mélia.
Bonjour, moi c'est Nour.
Bonjour, moi c'est Amy.
Nous sommes en la classe de 5e et nous sommes des écomotivés du Collège Molière. L'année dernière, nous avons décidé d'interviewer les femmes pour qu'elles nous parlent d'elles et de leur métier.
Pour en dire un peu plus de la Journée des femmes, c'est une journée qui est célébrée depuis 1977 à peu près. Et cette journée représente la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle rend hommage au combat mené par des générations de femmes pour obtenir des droits fondamentaux comme les droits de vote, etc.
Bonjour Cassandra, vous êtes stagiaire à la pagaille. Quelles ont été vos études ?
Actuellement, j'étudie dans un DNMAD, Innovation sociale, parcours événement.
Pourquoi avez-vous décidé de faire votre stage à la pagaille ?
Bah, comme mes études, c'est de l'innovation sociale, bah, la pagaille, c'est une ressourcerie. Donc, y a tous les liens qui se font.
Donc, la pagaille est un chantier d'insertion. L'idée d'un chantier d'insertion, c'est de permettre aux salariés de cette structure d'être accompagnés dans leur parcours professionnel. Donc c'est un tremplin dans leur parcours de vie. Tout type de personnes peuvent participer à un chantier d'insertion. C'est très large, on a tous et toutes le droit à 2 ans dans sa vie de participer à un chantier d'insertion. Ça peut être pour plein de raisons, des raisons professionnelles avec un éloignement de l'emploi depuis très longtemps, être bientôt à la retraite mais ne pas avoir assez de crédit pour partir à la retraite. Des personnes sous main de justice peuvent accéder au chantier d'insertion pour rebondir, retrouver un emploi. Des jeunes également avec un parcours d'études ou scolaire ou de vie avec plein de trous. Voilà, donc c'est très large, des personnes issues de l'immigration, etc. Aider dans leur démarche administrative pour accéder aux droits, que ce soit à la santé, au logement, et également, du coup, pouvoir rebondir et accéder à une formation qualifiante, certifiante d'un point de vue professionnel, faire des stages, découvrir des nouveaux métiers et retrouver un emploi.
Est-ce que c'est dur d'être stagiaire à la pagaille ?
C'est pas dur du tout. En fait, ce qui est bien, c'est que... moi, je pensais viser plus le côté événement, sauf que là, j'apprends à faire un peu tous les postes, c'est-à-dire je fais la caisse, je fais le tri, je viens faire des ateliers dans votre école aussi.
D'accord. À quel métier mèneront vos études ?
En fait, mes études, elles sont tellement ouvertes que je peux finir dans de la communication, architecture d'intérieur, enfin, c'est hyper ouvert, donc c'est ça que j'aime bien dans mes études.
Quels sont vos horaires en tant que stagiaire ?
Je fais du 35h, du coup, 10h, 17h30.
Est-ce que vous aimez bien ce que vous faites actuellement ? Et surtout, est-ce que les personnes qui vous accompagnent sont gentilles ?
J'aime trop mon stage. Il y a tout le monde qui est gentil à la pagaille. C'est comme une petite famille, on va dire. Voilà.
Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était très très intéressant et bonne continuation à vous.
l'école d'Ivry.
Aujourd'hui présenté par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, qui, comme d'habitude, vous entraîne dans ses escapades musicales. Et aujourd'hui, nous allons partir en voyage, ça tombe bien, avec Dorothée Lépine pour un nouveau livre qu'elle vient de publier, André Violis, l'aventure du grand reportage, ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Ça tombe bien, Dorothée Lépine, puisqu'on a envie tous de partir, et puis avec des inconnus, ou des gens qu'on ne connaissait pas, ou vous êtes spécialiste, vous, Dorothée Lépine, des grandes figures oubliées. Alors, qu'est-ce qui vous a mis sur les pas? Vous êtes vous-même journaliste, réalisatrice. Qu'est-ce qui vous a mis sur la route d'André Violis, qui est une femme alors assez fascinante, je dis à nos auditeurs, elle est née, on ne devrait pas le dire, elle n'aimait pas qu'on donne sa date de naissance, mais on va quand même le dire. Elle est née le 9 décembre 1870, elle est décédée le 9 août 1950. C'est une femme, j'ai l'impression, peut-être que c'est ça qui vous a fasciné, qui n'a pas cessé de réinventer sa vie.
Ouais, sa vie, c'est un roman. C'est complètement un roman d'aventure. C'est une femme qui, vous l'avez dit, est née en 1870 et qui réalise très vite, très jeune, lorsqu'elle a 10 ans, 12 ans, qu'être une fille, c'est être empêchée. Parce qu'on est encore dans ce 19e, très corseté, très rigide. Et être une femme, ben, on est soumise au code Napoléon, à la pression des hommes, etc., etc. Et donc, elle veut, elle, ce qu'elle convoite, c'est la liberté des hommes. Elle veut être libre. Elle veut être libre de penser, elle veut être libre d'agir. Et elle le comprend alors qu'elle est toute jeune. Elle le comprend parce que elle voulait être marin, parce qu'elle voulait voyager.
Et elle a eu une vie au long cours.
Et donc, elle aurait adoré voguer comme ça sur les mers. Elle vient d'une famille assez éduquée, on va sans doute y revenir. Oui. Et donc, il n'était pas question d'être matelot, évidemment. Donc, fallait faire des études. Or, l'école navale, c'est interdit aux filles. Et donc, elle comprend très vite que ça ne va pas être possible. Elle va être empêchée. Et à partir de ce moment-là, cet obstacle devient une force. Parce qu'en fait, elle va passer sa vie à se réinventer pour pouvoir aller au bout de son rêve, qui est un rêve de liberté.
Un rêve de liberté, d'émancipation.
D'émancipation.
De s'affranchir des limites. C'est une femme... Et pourtant, c'est une femme qui est quand même... Je vois sur la photo de couverture, là. Hein, c'est un petit format comme femme. Elle est pas très... Elle est menue. Hein, et c'est une femme qui a l'air quand même raisonnable, qui a l'air quand même...
C'est une bourgeoise.
Oui.
C'est une bourgeoise et on ne guérit jamais vraiment de son enfance. Oui. Donc on reste avec son éducation et elle est ses parents, sa mère est plutôt aristocrate, son père est un bourgeois et donc elle a cette éducation très forte et on le voit dans ses tenues quand elle va balader jusqu'à l'autre bout du monde. Elle sera toujours avec son chapeau cloche, son petit collier princesse, ses robes en mousseline. Jamais elle ne portera le pantalon alors qu'elle adoptera tous les autres codes de la femme libre et moderne et émancipée des années 20, par exemple, en France. Elle, non. Donc, elle va garder cet aspect assez bourgeois, très classique. Il y a une archive audio qui existe d'elle où on l'entend parler. Alors, c'est une vieille dame à l'époque parce que c'est après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est quelques années avant sa mort. Bon, on sent qu'elle vient d'un certain milieu et que tout ça est très, très, oui. très montée, très corsetée. Mais à côté de ça, c'est une femme qui a voulu vivre sa vie. Et sa vie, ça n'était surtout pas l'éducation qu'elle avait reçue de ses parents. C'était une vie de liberté. Et c'était une vie au contact des autres, à la découverte